Le journal présenté par Stéphane Genest.
Bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron est à Munich ce week-end dans le cadre de la conférence internationale sur la sécurité. Le président de la République s'est exprimé ce matin. Il se dit impatient face au manque de réponse de l'Allemagne sur l'Europe. Nous retrouverons notre correspondant en début de cette édition. C'est une première pour le chef de la diplomatie américaine. Mike Pompeo commence une tournée en Afrique aujourd'hui. Au programme, le Sénégal, l'Angola et l'Éthiopie. Alors que les relations entre les États-Unis et les grandes puissances africaines sont particulièrement tendues. Le coronavirus qui continue de faire des victimes, un touriste chinois qui l'avait contracté est mort en France. C'est ce qu'a annoncé Agnès Buzyn ce matin. C'est le premier décès sur le territoire français et en Europe. En Chine, nous verrons que les médecins aussi paient un lourd tribut dans la lutte contre l'épidémie. Et enfin, nous retrouverons dans une dizaine de minutes Catherine Pétillon pour le rendez-vous de l'économie de la mi-journée. La Bulle Écho est consacrée ce samedi à la prise en compte de la pénibilité des métiers dans les discussions autour de la réforme des retraites. Comme chaque année, la ville de Munich en Allemagne devient le temps d'un week-end le centre de la diplomatie mondiale. On a coutume d'ailleurs d'appeler ce rendez-vous le Davos de la sécurité internationale. Emmanuel Macron a pu ces derniers mois surprendre ou parfois inquiéter certains de ses partenaires comme l'Allemagne, notamment lorsqu'il a évoqué l'alliance de l'OTAN en état de mort cérébrale ou encore la semaine dernière quand le chef de l'État a proposé aux Européens un dialogue stratégique sur le rôle de la dissuasion nucléaire française. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin dans le cadre d'un échange sous forme de questions réponse avec la salle. Bonjour Ludovic Pitenu.
Bonjour à toutes et tous.
Vous avez assisté à cet échange et le président de la République a une nouvelle fois tenté de faire bouger l'Allemagne.
Oui, car depuis bientôt 3 ans qu'Emmanuel Macron multiplie les initiatives et les déclarations, les Allemands traînent souvent à apporter des réponses. Les commentaires ici sont très souvent critiques. Ces propositions sont au mieux jugées surprenantes, voire sensationnalistes. C'est exactement ce qui s'est passé ici hier. Quant à l'ouverture de cette conférence, 2 dirigeants allemands ont poliment accueilli sa dernière offre en date, celle formulée vendredi dernier à l'école militaire à Paris, d'ouvrir un dialogue stratégique entre Européens. Ce matin, Emmanuel Macron s'est donc permis d'être un petit peu plus insistant avec Berlin.
J'ai pas de frustration, j'ai des impatiences. Et je pense aujourd'hui qu'en franco-allemand, le travail qu'on doit se donner, c'est savoir comment on donne une nouvelle dynamique à l'aventure européenne. Nos classes moyennes ont un doute sur l'aventure européenne. Si le couple franco-allemand ne sait pas apporter, et avec lui, tous les partenaires européens, une réponse claire à ces défis, à ces sujets, et une perspective d'avenir pour les classes moyennes, nous aurons fait une erreur historique.
Emmanuel Macron a cherché à dissiper les malentendus. Il s'est expliqué de nouveau sur son projet d'une plus grande souveraineté que les Européens doivent chercher à avoir en matière de défense.
Parfois, ça a été mal interprété ou mal compris. Ça n'est pas un projet qui est contre l'OTAN. Mais nous avons besoin de construire une capacité propre qui nous donne de la crédibilité vis-à-vis du partenaire américain. C'est celle d'avoir une liberté d'action. Je le dis parce que c'est aussi très important pour avoir une politique étrangère.
Emmanuel Macron a conclu en s'adressant encore une fois aux Allemands. Vous avez cessé de vous considérer comme une puissance militaire et vous avez du coup trop regardé vers les États-Unis pour penser votre sécurité, leur a dit le président français. Un caillou jeté dans le jardin allemand, ce qu'il a qualifié même d'impensé allemand. On peut imaginer que la réponse ne viendra pas tout de suite de Berlin au vu de la crise politique profonde que traverse le pays qui prépare dans la douleur l'après-Merkel.
Merci beaucoup Ludovic Pietenu en direct de Munich avec, pour les moyens techniques, Alexandre Abergel. Le chef de la diplomatie américaine arrive sur le continent africain aujourd'hui. Mike Pompeo entame donc une tournée en Afrique avec au programme le Sénégal ce week-end. Puis le secrétaire d'État américain se rendra en Angola et en Éthiopie. C'est sa première visite sur le continent depuis sa prise de fonction il y a 2 ans. Une tournée africaine qui intervient alors que les relations entre les États-Unis et les grandes puissances africaines sont particulièrement tendues. Les explications d'Isabelle Raymond.
D'abord, les visas d'entrée sur le territoire américain sont devenus ces dernières semaines encore plus difficiles à obtenir pour les ressortissants de plusieurs pays africains. À commencer par le Nigeria, à la diaspora à la fois nombreuse et prospère, très agacée d'être inscrit sur la liste noire dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Ensuite, il y a cette menace réelle de réduction d'aide budgétaire sur le terrain militaire au Sahel. Elle inquiète la France, dont les 4 500 hommes déployés sur le terrain craignent d'être privés d'une aide logistique précieuse. audacieuse. Car les États-Unis ont décidé de changer leur fusil d'épaule. L'objectif désormais est surtout de contrer l'offensive chinoise en Afrique en proposant leur aide financière aux grands pays du continent, à commencer par l'Angola qui s'est fortement endetté auprès de la puissance chinoise au point de devoir la rembourser en pétrole. Jouant les VRP de luxe, Mike Pompeo vient proposer l'alternative américaine, reposant en partie sur des financements privés. Pas certain que cette opération de charme tardive, à minima, suffise à refermer la plaie ouverte il y a maintenant 2 ans, quand en janvier 2018, Donald Trump aurait, en termes particulièrement grossiers, ironisé sur les pays nourrissant le flux d'immigrés aux États-Unis.
Au Venezuela, lancement aujourd'hui de grandes manœuvres militaires dans les principales villes du pays. L'armée a commencé à se déployer à la frontière avec la Colombie. Selon le président Nicolas Maduro, ces opérations ont pour objectif de préparer la défense du Venezuela contre des agressions potentielles des États-Unis. Le coronavirus qui continue de faire des dégâts. On a appris le décès en France d'un patient qu'il avait contracté. C'est ce qu'a annoncé Agnès Buzyn ce matin. On l'écoute.
Ce patient, un touriste chinois originaire de la province de Hubei, était arrivé en France le 16 janvier dernier. Il avait été hospitalisé à l'hôpital Bichat avec des mesures strictes d'isolement le 25 janvier. Son état s'était rapidement dégradé et il était depuis plusieurs jours dans un état critique, pris en charge en réanimation. Il s'agit là du premier décès par le coronavirus en dehors de l'Asie, donc le premier décès en Europe.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn. En Chine, le bilan des personnes qui ont succombé à ce virus a dépassé la barre des 1500. Plus de 66 000 cas confirmés ont été enregistrés par les autorités. Mais les médecins constatent une baisse du nombre de nouveaux patients depuis la mise en place d'une nouvelle méthode de diagnostic plus complète. Mais le corps médical paie un lourd tribut dans la lutte contre l'épidémie. À Pékin, Dominique André.
Plus de 25 000 médecins et personnels médicaux sont mobilisés sur le front de l'épidémie auquel il faut ajouter les équipes de santé de l'armée chinoise. C'est beaucoup plus que lors du terrible séisme de 2008 dans le Sichuan qui avait coûté la vie à 80 000 personnes. Le personnel soignant subit de plein fouet l'épidémie. Plus de 1700 d'entre eux sont contaminés par le virus. 6 sont morts, dont le jeune médecin Li Wenliang, le premier à avoir donné l'alerte. Pour leur rendre hommage, une conférence de presse a été organisée à Wuhan une semaine après la mort du docteur Lee. A contrario, les médecins qui ont déserté leur poste le paient très cher. Un chef de service parti à un moment crucial de l'épidémie a été limogé. Ce week-end, les experts de l'OMS commencent leurs investigations. Objectif, comprendre la transmission et la gravité de la maladie et estimer l'impact des mesures qui ont été prises. À Pékin, ces mesures se renforcent encore avec le retour des travailleurs ruraux partis pour le nouvel an lunaire. Depuis hier, une quarantaine de 14 jours leur est imposée.
En Chine, toujours, c'est une première depuis 70 ans. Les ministres des Affaires étrangères de la Chine et du Vatican se sont rencontrés ce samedi. Cet entretien est un nouveau signe de rapprochement depuis l'accord de 2018 entre les deux États sur la nomination des évêques. Les relations entre Pékin et Rome étaient au point mort en raison notamment de différends d'ordre religieux. En France, après le retrait de Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris, l'heure est au casse-tête pour les dirigeants de La République En Marche. Une commission nationale d'investiture se tient actuellement au siège du parti présidentiel pour pouvoir trouver un nouveau candidat qui le représentera. D'ores et déjà, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, a fait savoir qu'elle n'était pas intéressée, à l'inverse de Mounir Majoubi qui a déjà annoncé qu'il était disponible si besoin. Le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, fait savoir que celui ou celle qui sera désigné sera connu au plus tard, en début de semaine prochaine. C'était il y a un an et demi, en septembre 2018, un groupe de bénévoles chapeautés par le journaliste de Charlie Hebdo, Fabrice Nicolino, lançait l'association Nous voulons des coquelicots. Cet appel à la résistance pour l'interdiction de tous les pesticides repose sur une pétition qui aujourd'hui rassemble un peu plus d'un million de signatures, mais aussi des collectifs locaux. Un chiffre loin de l'objectif des 5 millions que voulait collecter sur 2 ans Fabrice Nicolino, le président de l'association. Ce dernier va tirer les premières conclusions des actions menées sur le terrain et il réadapte également son discours.
Il faut, selon moi, sans aucun doute possible, il faut un plan de sortie de l'agriculture industrielle, comme on parle de plan de sortie du nucléaire, un plan de sortie en 10 ans. La société est prête pour un changement de ce genre. C'est la FNSEA qui n'est pas prête à ce genre. Mais la société est prête. Et je crois que n'importe quel gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche ou de Mars, aurait un intérêt politique gigantesque à considérer non seulement les intérêts mais les aspirations de la société, et se lancer dans un plan de sortie publique avec une aide fraternelle aux paysans, y compris ceux qui utilisent des pesticides, parce que moi, je ne suis absolument pas du tout... Je ne jette l'opprobre à personne. Je pense qu'il faut tendre la main de manière fraternelle à tous ceux qui sont d'accord pour qu'on avance ensemble. Et il ne faut ostraciser personne, il ne faut laisser personne sur le bord de la route. Je crois qu'il est possible d'imaginer un vaste plan public de sortie de cette agriculture maudite. J'emploie le mot à dessein. C'est une agriculture maudite parce que l'agriculture, elle est faite pour nourrir les hommes. Elle n'est pas faite pour les empoisonner. Donc il faut sortir de ce système. 10 ans, c'est une durée raisonnable. Et ça donnerait un souffle d'espoir fantastique dans ce pays d'imaginer qu'on puisse sortir enfin de ce système.
Fabrice Nicolino, président de l'association Nous voulons des coquelicots, joint par Anne Fauquemberg. Airbus va devoir faire face à de nouvelles taxes des États-Unis. L'avionneur européen déplore la décision de l'exécutif américain de relever de 10 à 15% les droits de douane sur les avions importés de l'Union européenne. Cette mesure sera appliquée à partir du 18 mars.
La bulle économique, Catherine Pétillon.
La bulle économique en ce samedi, eh bien c'est avec Catherine Pétillon. Nous revenons sur la prise en compte de la pénibilité des métiers qui représente l'un des grands sujets de désaccord dans les discussions autour de la réforme des retraites.
S'agissant de la pénibilité, les attentes sont fortes. Actuellement, les règles sont éclatées et pour tout dire inéquitables. Les mêmes gestes, les mêmes risques, la même pénibilité parfois, n'ouvrent pas les mêmes droits dans le privé et dans le public. Nous avons décidé de tout remettre à plat pour instaurer les règles de pénibilité universelles.
C'était jeudi dernier. Après avoir reçu les partenaires sociaux, Édouard Philippe a rappelé sa volonté de changer les règles de prise en compte de la pénibilité des métiers dans le cadre de la réforme des retraites. Mais le Premier ministre a surtout temporisé. Alors que syndicats et patronats n'arrivent pas à se mettre d'accord, il a lui-même remis ses arbitrages à plus tard. À ce stade, l'exécutif prévoit de lancer un plan massif de prévention de la pénibilité et de créer un congé spécifique de reconversion. Intéressant, mais insuffisant, jugent les syndicats. Car le point crucial, celui le plus spécifiquement lié aux retraites et sur lequel personne ne tombe d'accord à ce stade, c'est la réparation. Autrement dit, quelle contrepartie donne-t-on aux personnes qui exercent des métiers difficiles ? Depuis longtemps déjà, quand certains aspects du travail ont pour effet potentiel de réduire la durée de la retraite, c'est-à-dire de mourir plus tôt, ou alors de dégrader les conditions de vie pendant cette période, alors cela justifie des compensations, comme le droit de partir plus tôt à la retraite sans que sa pension ne baisse. Le futur régime universel de retraite pose donc deux grandes questions. D'abord, faut-il étendre la prise en compte de la pénibilité ? Car si on travaille plus longtemps, encore faut-il être en état de le faire. Ensuite, la réforme prévoit d'uniformiser les règles en intégrant tout le monde dans le modèle qui s'applique aujourd'hui aux salariés du privé. Quelles conséquences cela pourrait avoir pour les fonctionnaires ? Pour comprendre ce qui est en jeu, rappelons la situation actuelle. Il existe à ce jour deux cas de figure pour les personnes exerçant un métier pénible. Pour les salariés du privé, le compte professionnel de prévention, ce qu'on appelle le C2P, permet d'accumuler des points tout au long de la carrière. Il faut pour cela être exposé, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs des 6 facteurs de pénibilité reconnus, comme le travail de nuit, le bruit ou les températures extrêmes. Cela permet entre autres de partir jusqu'à 2 ans avant l'âge légal de la retraite, soit aujourd'hui 60 ans au lieu de 62. Dans la fonction publique, certaines professions comme pompiers ou infirmiers sont reconnues comme dangereuses ou éprouvantes physiquement. On appelle cela les catégories actives. Ces fonctionnaires peuvent partir entre 52 et 57 ans. La réforme supprime cela, sauf pour quelques professions comme les policiers, les douaniers en uniforme ou les pompiers professionnels. Pour tous les autres, qui jusqu'alors relèvent de ces catégories actives, cela pose 2 difficultés. Si la réforme leur donne droit de partir à 60 ans en cas de métier pénible, ça sera certes toujours plus tôt que les autres, mais ce sera surtout beaucoup plus tard qu'aujourd'hui. L'autre problème, c'est le risque qu'une partie des conditions de travail propres à ces métiers ne rentre pas dans les critères de pénibilité aujourd'hui reconnus par le C2P. Surtout si on se rappelle que 4 critères ont déjà été supprimés par les ordonnances travail de 2017, à savoir le port de charges lourdes, les postures éprouvantes, les vibrations et les risques chimiques. Prenons le cas des égoutiers. Leur travail rentre dans la catégorie insalubre et leur permet de partir à 52 ans. Notamment parce qu'ils sont exposés à un tas de produits chimiques, ce qui dans le privé n'est plus un critère reconnu. Si jamais ces métiers n'offrent plus de retraite anticipée, alors cela pose d'autres questions. Quelle politique de rémunération tout au long de la carrière ? Ou alors comment continuer à attirer des personnes pour des recrutements futurs ? Les organisations de salariés, elles, ont demandé que les critères de pénibilité abandonnés il y a 2 ans soient réintégrés, sans succès. La CFDT a fini par accepter que des facteurs de pénibilité soient définis au niveau des branches professionnelles. Le MEDEF y est opposé, les représentants des PME et des artisans un peu moins, mais ils réclament un financement solidaire et mutualisé, car la question dans le fond, c'est qui va payer. Les discussions sur la pénibilité sont donc bien loin d'être terminées.
Catherine Pétillon. La météo cet après-midi avec une France coupée en deux. Tout le nord-ouest sera sous les nuages avec des pluies à prévoir et du soleil sur le centre, l'est et le sud de la France. Du côté des températures, prévoyez 8 degrés à Strasbourg et à Gap, 9 à Clermont-Ferrand, 12 à Paris, Lille et Perpignan. La maximale sera pour la côte basque avec 15 degrés. Il est midi et 45 minutes. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon.